Bonjour à toutes et à tous dans le mag aujourd'hui, une nouveauté, une chronique avec Caroline Fualdès, sophrologue et naturopathe, chronique qui s'appelle « Et si on décidait d'aller bien ?» Bonne idée, mais c'est à la fin de ce mag. Avant d'aller peut-être mieux, grâce à Caroline, aujourd'hui on va s'intéresser à un sujet assez grave avec nos invités. Mardi, c'était la journée européenne de la justice et dans ce cadre-là, je reçois deux membres de l'association ADAVEM 12, l'ADAVEM que l'on connaît sur CFM pour lui avoir consacré des sujets il y a quelques semaines de ça. L'ADAVEM, c'est l'association départementale d'aide aux victimes et de médiation de l'Aveyron, et on va s'intéresser à l'aide aux victimes avec mes invités aujourd'hui. Mes invités, ce sont Anne Duhem. Bonjour Anne.
Bonjour.
Anne, vous êtes juriste à l'ADAVEM de l'Aveyron.
Tout à fait.
Hein, juriste, ça ne veut pas dire avocat.
Non.
Ça veut dire que vous réglez tous les problèmes juridiques, que nous on ne lit même pas les trucs parce que c'est trop compliqué, on n'y comprend rien.
Voilà,
à
on
peu
comprend
près,
un petit peu le droit, parce qu'on a fait des études pour ça.
J'imagine. Et alors dans l'aide aux victimes que propose l'ADAVEM, et pas que, hein, parce que l'ADAVEM c'est beaucoup de médiation familiale notamment. La partie aide aux victimes, une juriste, ça sert à quoi si c'est pas un avocat?
Ça sert déjà à informer sur leurs droits, et puis autant que faire se peut, les aider à les faire valoir, et les accompagner dans leur démarche, les orienter éventuellement vers les professionnels, comme les avocats.
Quand on parle de victime, définition, puisque vous êtes juriste, les mots sont importants pour vous, c'est vrai, victime... Sans faire de blagues, bon, tout le monde peut être victime de quelque chose à un moment donné. Mais enfin bon, vous, vous occupez peut-être pas de toutes les victimes potentielles. C'est quoi un petit peu la définition des victimes, ou en tout cas celles dont vous pouvez prendre la charge à l'ADAVEM de l'Aveyron?
Alors la notion de victime, quand on parle d'aide aux victimes, hein, qui est véritablement une mission de service public, on parle bien évidemment de victimes d'infractions pénales. Donc des personnes qui ont subi des faits qui sont graves et qui sont susceptibles de revêtir une qualification pénale et donc d'entraîner la poursuite de l'auteur et sa condamnation.
Pénal, il peut y avoir des choses extrêmement graves, aller jusqu'à au meurtre, à l'assassinat, tout ce que vous voulez, mais des choses qui peuvent être d'ordre...
Tout à fait, il y a différentes catégories d'infractions, hein, des moins graves aux plus graves. Mmh. Elles sont classées en contraventions, délits et crimes, donc les crimes étant les plus graves.
Mais par exemple, une grosse escroquerie, c'est pas du pénal? Et on peut être victime d'une grosse escroquerie?
Si, c'est du pénal et c'est un délit.
D'accord, et donc là, non, la DAVEM, non?
Ah si,
ah, si aussi.
Tout à fait.
Ah d'accord,
tout à fait.
Okay. Ouais, donc le champ est large?
Oui, et ça concerne aussi bien les atteintes aux biens qu'aux personnes. Sur le nombre de personnes qu'on reçoit, il y a à peu près 29% qui sont victimes d'atteinte aux biens et 68% victimes d'atteinte aux personnes.
D'accord.
Et parmi ces atteintes aux personnes, les faits les plus graves, c'est les homicides involontaires. Les homicides, on en a très peu, fort heureusement.
Mmh. En Aveyron, hein, parce que sinon il y en a...
En Aveyron, oui.
Tout ce qui est violence sans aller jusqu'à la mort.
Tout ce qui est violence sexuelle, agression sexuelle. Un fait saillant, en fait, par rapport aux personnes qu'on reçoit, c'est qu'il y a un grand nombre de ces faits-là qui sont commis en intrafamilial.
D'accord.
Sur les 1000 victimes qu'on a reçues en 2021, il y a à peu près donc 300 dossiers qui concernent des faits commis en intrafamilial.
1000 victimes, vous avez reçu l'ADAVEM de l'Aveyron l'an passé?
Oui.
À vos côtés, avec nous aussi dans les studios, Charlène Ravary. Bonjour Charlène.
Bonjour.
Charlène, vous aussi, vous travaillez à l'ADAVEM, Association départementale d'aide aux victimes et de médiation. Vous n'êtes pas juriste, vous êtes psychologue.
Oui, tout à fait.
Vous faites quoi, vous, à l'ADAVEM? Vous recevez ces victimes, justement? L'aspect concret, pratique, la porte premier couloir, porte droite, ça c'est pour Anne, juriste. Et l'aspect, attendez, je vais vous accompagner au fond à droite. C'est vous, Charlène?
C'est ça. Après, en général, j'ai quand même c'est plutôt mes collègues qui vont orienter les personnes vers moi. Ça peut arriver des fois que les gens soient orientés directement par la gendarmerie ou par les autorités quand il y a un besoin particulier. Mais c'est vrai que généralement, c'est quand même plutôt mes collègues qui vont les orienter en fonction du besoin qu'elles évaluent, en fonction de la demande de la personne principalement.
Ouais, vous nous dites des fois c'est la gendarmerie qui vous envoie des personnes. Mmh. C'est quoi les autres moyens de s'adresser à l'ADAVEM? Ça peut être spontané, ça doit peut-être arriver, je ne sais pas, mais bon.
Alors on peut avoir des fois via le site internet, via les réseaux sociaux, des choses comme ça. On a pas mal aussi avec les partenaires, donc tout ce qui va être les assistantes sociales, qui interviennent sur le territoire de l'Aveyron. Les autorités, ça va être, je pense, la plus grosse partie, puisque quand il y a un dépôt de plainte, il y a un récépissé de plainte sur lequel apparaît l'association, pour que les personnes puissent prendre attache sur le plan juridique ou psychologique. Après, il va y avoir tout ce qui va être les lignes d'écoute nationales. Il y a des lignes...
Ah oui, les grands numéros de téléphone.
Oui, il y a une ligne donc 116-006 mise en œuvre par notre fédération, France Victimes. Mm-hmm. Et donc, lorsque ça concerne des personnes qui se trouvent en Aveyron, bah, elles sont réorientées vers nous.
Victime, je reviens à ce mot. Pour qu'on soit victime, faut qu'il y ait quelqu'un, une autorité qui justement vous dit, lui c'est une victime, c'est garanti, c'est tamponné. Parce que c'est vrai qu'on peut être... À la limite, il y a des grands criminels qui se font passer pour des victimes. Comment on est jugé victime avant peut-être même d'être jugé?
Alors, il n'est pas nécessaire en fait qu'il y ait une procédure en cours pour que la personne vienne vers nous.
D'accord.
Il suffit simplement qu'elle s'estime victime d'une infraction pénale. On a régulièrement des personnes qui nous disent avoir été victimes d'inceste, de violences sexuelles pendant leur enfance, alors qu'elles n'ont jamais révélé les faits, qu'elles n'ont jamais porté plainte. Ces personnes-là, bien sûr, nous les accueillons et c'est tout à fait notre mission que de les écouter, les accompagner pour un éventuel dépôt de plainte, mais pas forcément. Mm-hmm. Nous, on respecte aussi la temporalité de la personne, les besoins qui sont les siens. On leur donne toutes les informations nécessaires pour être en capacité et en mesure de le faire.
L'aide aux victimes proposée par la DAVEM de l'Aveyron, je le rappelle, cette aide avec vous, Anne, elle est notamment juridique. Donc là, dans le détail, ça peut donner quoi?
Alors juste, je dirais peut-être la première des choses, c'est l'écoute, c'est l'accueil.
Ah, oui.
Toute personne qui s'estime victime a le droit d'être accueillie, respectée, écoutée et... Bien sûr, voilà. Après, nous, on fait une évaluation en fait de ses besoins en fonction de ses demandes et on essaie d'y répondre autant que faire se peut, donc sur le plan juridique et sur le plan psychologique. Après, il peut également surgir des besoins sur le plan social, sur le plan de l'hébergement,
financier,
du logement, etc. Financier. À ce moment-là, on oriente vers les partenaires, donc assistantes sociales de secteur. On oriente aussi vers, comme je disais tout à l'heure, les professionnels... comme les avocats, qui jouent un grand rôle dans la procédure pénale.
Vous, Charlène, donc psychologue, je le rappelle, vous n'êtes pas le premier interlocuteur. Ah si, ça pourrait, un psychologue pour accueillir une personne qui vient se dire comme victime. Non, c'est pas vous peut-être le premier contact.
Mais... Alors ça peut arriver ponctuellement, notamment quand ce sont des transmissions qui nous viennent directement des autorités. Donc imaginons une personne qui va rencontrer la gendarmerie dans le cadre d'un dépôt de plainte pour des violences intrafamiliales. Nous, on va être informés pour voir un petit peu si la personne a des besoins sur le volet juridique ou psychologique. Donc, dans ces cas-là, je peux être un petit peu premier interlocuteur. Après, globalement, c'est quand même plutôt mes collègues qui vont accueillir. Moi, ça va être sur des orientations gendarmerie ou alors sur, entre guillemets, des erreurs d'orientation qui peuvent arriver. Simplement, il y a une psychologue, on va m'orienter quelqu'un et en fait, ça ne relève pas du tout... de nos missions, mais après, globalement, c'est plutôt mes collègues.
Psychologue, c'est pas psychiatre. Hein, pour traduire un petit peu clairement, tout le monde entend, tout le monde l'utilise. Hein. C'est quoi, c'est autour du caractère de la personne?
Moi, pour ma part, c'est plutôt une mission de soutien psychologique, d'accompagner la victime, de lui proposer un espace pour qu'elle mette des mots sur son vécu. Souvent, les personnes qui vont m'être orientées, c'est des personnes qui ont vécu ce qu'on appelle une forme de trauma, c'est-à-dire quelque chose qui va vraiment les bouleverser dans leur intégrité physique, parfois, vraiment, parfois psychologique, sur des faits qui remettent en cause toute leur identité, toutes les valeurs qu'elles avaient construites précédemment.
Ces victimes donc que vous rencontrez, ces personnes que vous rencontrez, bon, il y a, j'imagine, tout type de personnes très différentes, très variées, il n'y a pas de problème. Les enfants?
On en reçoit dans le cadre de plusieurs missions. Comme ma collègue développera la partie liée spécifique aux mineurs, moi je peux recevoir des enfants, pas nécessairement avec l'accord de leurs parents, c'est un peu particulier. Mais on a quand même une confidentialité qui est très très importante sur notre métier, notamment quand ce sont des faits qui sont dévoilés pour la première fois, qu'ils sont parlés. Enfin, on le sait, en France, la prise de parole sur certains faits, elle est très compliquée, notamment sur des faits de violence sexuelle où on est... je crois, sur 12 ans en moyenne, entre les faits et le moment où la personne va réussir à en parler. Après, voilà, auprès des enfants, moi, j'ai d'autres missions sur d'autres qui peuvent être directement vraiment en lien avec les enfants, mais c'est vrai que sur le service d'aide aux victimes, en général, c'est quand même avec l'accord des parents, voire souvent à la demande des parents.
Ah oui.
Donc, ça veut dire des enfants qui n'étaient pas forcément en demande de me rencontrer, qui arrivent un petit peu dans mon bureau, chamboulés, en se disant « Mais c'est qui cette dame? Qu'est-ce qu'elle me veut ?» Et donc, ça va être de voir si l'enfant, déjà lui-même, il a une demande, s'il identifie un besoin. Et ensuite, bah, quand il n'y en a pas du tout, c'est plutôt un travail auprès des parents, de les rassurer, parce que des fois, un parent va mettre une importance énorme sur quelque chose que l'enfant vit très différemment, oui. Avec sa perception d'enfant, forcément.
Alors, les enfants des mineurs, hein, évidemment, c'est un aspect particulier bah, du travail, quel qu'il soit, d'ailleurs, pas qu'à l'ADAVEM, hein. Population des mineurs. Bon. Et là, je me tourne de nouveau vers Anne Duhem, juriste. Ces jeunes, ces enfants que vous accompagnez, ça se passe comment ?
Ce qu'il faut souligner, la question des mineurs, c'est un sujet qui nous anime et qui nous préoccupe oui. beaucoup à l'ADAVEM, parce que ben, si victimes vulnérables il y a, ce sont bien les mineurs. Qui n'ont pas forcément tous les ressorts pour faire valoir, déjà faire entendre leurs paroles et faire valoir leurs droits. Donc voilà, c'est un sujet vraiment sur lequel on essaie d'avoir un accompagnement de qualité. Et il faut signaler une mission particulière donc, qui nous est confiée par les magistrats. Donc généralement, c'est sur réquisition du procureur de la République. Dans certaines affaires où les représentants légaux ne sont pas en capacité, soit parce que ce sont eux-mêmes les auteurs des faits, soit parce que ça a été commis dans un contexte compliqué, l'auteur est le conjoint ou quelqu'un de la famille, etc., et que les représentants légaux ne font pas tout le nécessaire pour faire valoir les droits et défendre les intérêts de leur enfant. À ce moment-là, le magistrat désigne un tiers, donc nous en l'occurrence, qui va être chargé de faire en lieu et place pour cette procédure en particulier, en lieu et place des parents, toutes les diligences nécessaires pour préserver les intérêts de l'enfant.
Bon, la justice, vous travaillez avec, au plus près. Alors l'ADAVEM de l'Aveyron, certains d'entre vous en interview il y a quelques semaines, on a évoqué vos locaux, vos permanences sur tout département. Bon, le siège, entre guillemets, enfin, il est à Rodez, hein, mais sinon, l'ADAVEM de l'Aveyron, c'est des permanences régulières partout, quasiment partout sur le département. Et d'ailleurs, je renvoie peut-être vers la page Facebook ou le site internet de l'ADAVEM 12, l'ADAVEM de l'Aveyron, pour retrouver les lieux, les dates, les contacts de ces permanences. Il ne faut pas hésiter à vous contacter, même en cas de doute, pour prendre de l'information, hein, pour voir si c'est bien vers vous qu'il faut qu'on se dirige. Donc l'ADAVEM de l'Aveyron, c'est des bureaux, c'est des réseaux sociaux, mais c'est aussi une permanence, un local au tribunal de Rodez pour être au plus près de ces victimes, on peut le comprendre.
Oui, tout à fait. Alors, pour les victimes spécifiquement, deux permanences au sein même des tribunaux, donc tribunal judiciaire de Rodez et tribunal de proximité de Millau, des permanences qui se déroulent dans le cadre de ce qu'on appelle le bureau d'aide aux victimes, le BAV. Donc ces permanences se tiennent à l'occasion, enfin, sur les temps où se déroulent les audiences. D'accord. Donc chaque victime peut venir nous trouver à ce moment-là. Et nous, de notre côté, on a également toute une démarche proactive vis-à-vis des victimes donc, qui ont une audience de programmée, qui vise à les contacter en amont pour faire le point sur leurs besoins et les aider dans leur démarche, notamment se constituer partie civile, éventuellement demander des dommages et intérêts, désigner un avocat, déposer un dossier d'aide juridictionnelle, etc.
Ce bureau-là, parce que le tribunal de Rodez, bon, c'est joli. Hein. Mais bon, il faut s'y retrouver dans les bureaux. Hein. Il est où ? Parce que...
Vous arrivez au tribunal, dans le hall d'entrée, vous avez un escalier en face de vous.
Ah oui, oui, oui.
Et vous prenez sur votre droite, on est au premier étage, donc juste avant le juge des enfants. Et c'est noté,
c'est écrit
aux victimes. Voilà.
Psychologue Charlène Ravary, vous êtes là, je fais la phrase à l'envers, excusez-moi, je fais la poésie, comme dirait Molière. C'est systématique, entre guillemets, il y a toujours des exceptions, que les personnes qui s'adressent à l'ADAVEM aient un contact avec vous ou le psychologue, il faut qu'il y ait une demande, il faut qu'il y ait une situation.
Alors absolument toutes les victimes qu'on reçoit peuvent venir me voir en rendez-vous, ça c'est pas, il n'y a pas forcément de tri. Par contre, en général, c'est soit les personnes qui ont une demande en amont et qui expliquent que elles ont l'impression qu'elles ont besoin de parler, qu'elles ont besoin d'être soutenues, d'être entendues, d'être Soit c'est des personnes où mes collègues vont un petit peu évaluer au cours d'un entretien, par exemple d'écoute ou juridique, elles vont évaluer qu'il y a peut-être un besoin parce que c'est une personne qui est en détresse, qui se questionne sur des choses qui ne sont pas forcément de leur ressort. Auquel cas, elles vont me l'orienter à moi derrière. Après, c'est vrai que globalement, c'est plutôt la proposition, elle est souvent faite aux personnes de dire, si vous voulez, on a une psychologue. ça veut pas forcément dire que les personnes vont venir. Oui. Et ça veut pas forcément dire non plus que, qu'elles en ont besoin ou qu'elles en ont pas besoin. C'est plutôt, en fait, disons que c'est vraiment en fonction de la demande. Moi, j'essaie vraiment de m'adapter à la demande de la personne et de pas en imposer une ou de pas imposer de... surtout chez les mineurs.
Ouais. Vous, on vous rencontre pas au tribunal ? Il faut une ambiance peut-être un peu différente, un peu plus...
Alors, des fois, je peux venir au tribunal sur des accompagnements à l'audience. C'est quelque chose qu'on a une convention avec la cour d'appel pour des victimes, des fois, qui sont un petit peu isolées, qui ont peu, on va dire, de soutien familial, par exemple. Elles peuvent demander à être accompagnées à l'audience. Ça peut être soit par une juriste, soit par la psychologue. L'intérêt pour elles, ça va être aussi d'être soutenues dans ce moment-là. Ça peut être des fois se confronter à l'auteur sur des faits de violence, des violences conjugales. Se retrouver face à l'auteur qui est présent dans la salle d'audience, avec aussi toute la démarche des avocats, toutes les mises en scène que ça implique. Ça peut être un moment qui est réparateur, mais qui peut être aussi compliqué émotionnellement. Donc nous, on fait cette proposition-là pour ceux qui sont en demande, qui nous font part d'un isolement, qui nous font part d'un besoin d'écoute et de soutien. Donc après, c'est laissé au libre choix de la personne.
Alors, l'ADAVEM, c'est l'accueil de ces victimes, quelles qu'elles soient, sur l'ensemble du département de l'Aveyron, un accompagnement. Puis après, il y a la suite, parce que quand on est victime, alors il n'y a pas chaque fois un jugement, tribunal et tout, la complète, mais il y a des décisions qui peuvent être prises, voire des dédommagements quand on est victime, dommage-intérêt, comme on dit. Et là, je m'adresse de nouveau à la juriste, je regarde Anne Duhaime dans ces cas-là. Dans ces cas-là, Anne, vous êtes là.
Tout à fait. Ben, nous,
pour dire, il y avait une amende à payer.
Notre accompagnement, il se situe tout au long de la procédure pénale. Donc c'est avant la plainte, après la plainte, avant l'audience, s'il y en a une, après l'audience. Et donc après l'audience, bien souvent, ça consiste à permettre à la victime, lorsqu'elle a reçu des dédommagements, enfin des dommages et intérêts, de pouvoir les recouvrer effectivement. Donc pour ça, on les informe sur le fonds de garantie. Donc il existe différents mécanismes.
Oui, c'est des gens qui payent à la place de la personne responsable quand elle n'a pas les moyens.
Tout à fait. Donc notamment, il s'agit du SARVI, le service d'aide au recouvrement pour les victimes d'infractions. Et il existe également la CIVI, donc la commission d'indemnisation pour les victimes d'infractions. Donc on les informe des démarches à réaliser, on les aide à remplir les dossiers, les formulaires, etc.
C'est suivi de victimes, ça peut durer longtemps ?
Alors moi, sur le volet psychologique, il n'y a pas de limite, c'est-à-dire que c'est en fonction des besoins exprimés, en fonction, je vais pas, il n'y a pas un nombre d'entretiens limité.
D'accord.
Alors après, il y a souvent, avec les thérapies qui se développent, il y a souvent une orientation qui se fait au bout d'un petit moment pour des personnes de se dire là je sens que je suis prête à aller un petit peu plus loin dans ma démarche de prendre soin de moi, parce que c'est aussi cette façon-là. Et donc de s'intéresser à des thérapies, notamment EMDR,
EMDR,
c'est
au scrap, ça fait pas grand chose, mais à part ça je peux pas.
Après, oui, le EMDR, c'est par le mouvement des yeux, c'est toute une forme de thérapie qui se développe depuis quelques années. On a quelques praticiens en plus sur le territoire, ça a fait ses preuves auprès des victimes sur la question du souvenir, sur la question de travailler le traumatisme, des choses comme ça. Donc moi je vais les recevoir quelques temps. Et il va y avoir après, d'elles-mêmes, souvent cette orientation de se dire qu'elles vont aller sur d'autres formes de thérapie.
Alors, l'ADAVEM donc, travaille tout au long des différents parcours, des différents process autour des victimes. Vous êtes nombreux d'ailleurs, assez nombreux à l'ADAVEM. Enfin, on n'est peut-être jamais assez nombreux, mais enfin bon...
On est 17 ou 18, je crois, tous services confondus. Après, à voir sur les temps pleins, je ne sais pas ce que ça donne.
Sur l'aide aux victimes, dans tous les cas, on est 3 juristes et une psychologue.
Donc tout ça, c'est du boulot, évidemment, on l'a bien compris. Moi, ça coûte. Qui paye ? Quand on s'adresse à vous, moi je veux bien, tout ça, ça a l'air super, c'est sérieux, il y a tout ce qu'il faut, c'est magnifique et tout, mais bon, la facture à un moment donné.
La particularité quand même qu'on a en France, c'est que la mission d'aide aux victimes, elle est assurée plutôt par des associations, là où d'autres pays ont fait le choix de mettre nous c'est une mission de service public.
D'accord.
Mais qui est garantie par des associations. Là où certains pays, c'est en fait de la fonction publique.
Strict,
qui est assurée par l'État en termes d'accompagnement des victimes.
Mais ça ne veut pas dire que je ne paye pas.
Non, nous, c'est un service qui est gratuit, que ce soit de voir mes collègues juristes ou que ce soit moi dans mes entretiens. C'est
complètement gratuit.
C'est vraiment une mission de service public. Donc, c'est un droit pour les victimes d'être accompagnées.
Et c'est le ministère de la Justice qui nous finance en très grande partie.
D'ailleurs, tiens, un dernier petit mot là-dessus, puisque je vous ai reçu cette semaine dans le cadre de la Journée européenne de la justice, là, c'était mardi. Et avant de se quitter, ouais, journée européenne de la justice. Alors, vous n'êtes peut-être pas experte des 27 ou 28 pays, comment ça se passe dans votre domaine, quoi. Mais bon, la France, là-dedans, là, on peut faire les malins un peu ou pas, par rapport aux autres pays européens, l'aide aux victimes
Je pense que c'est assez difficile à dire. Il y a des dispositifs qui existent à travers toute l'Europe qui sont très différents. En France, on a quelque chose qui se développe. Je fais juste la petite aparté sur les chiens d'assistance judiciaire. C'est quelque chose qui s'est mis en place chez nos voisins du Lot.
Ça remplace quoi, les psychologues ou la police?
Pas du tout. Donc ça s'appelle un CAJ, CAJ pour le chien d'assistance judiciaire. Ouais. C'est en fait un chien qui est entièrement dressé. Bon, je vais pas faire la comparaison des chiens guides d'aveugles, mais il y a le point commun vraiment de ce côté un peu thérapeutique du chien. Et l'idée, c'est que c'est un chien qui est au tribunal, qui va accompagner les victimes dans les audiences. Il y a des départements où ça se fait aussi de les amener au commissariat pour les auditions. Pour des mineurs, de proposer en fait une forme de repère avec un animal côté boule de poil un peu imposé. Sur Cahors, il y en a, je ne sais plus quel est son nom.
Lol.
Pourquoi pas bientôt en Aveyron.
On s'y projette.
Très bien.
On y pense.
Donc oui, bon, la France, il y a mieux, il y a pire. Dans ces domaines-là. Voilà, Charlène, elle veut pas trop... D'accord. Ça pourrait être mieux. Mais enfin, c'est déjà pas mal.
Ça pourrait nécessairement être mieux.
Ça peut toujours être mieux, les deux victimes.
On va dire que tout ce qui est social, ça peut nécessairement être mieux.
Je crois qu'on n'est pas très, très bien placé. Non. En termes de budget affecté à la justice. On a une grosse marge de manœuvre. Mais oui. On va dire que... Voilà, il y a quand même des évolutions.
Ça avance un petit peu.
Il y a de belles initiatives, en tout cas.
Eh bien, écoutez, pourvu que ça dure, notamment dans ces dossiers d'aide aux victimes, enfin d'affaires liées aux victimes, même si sans aller jusqu'au plus grave, elles sont évidemment sensibles et très difficiles pour ceux qui les vivent. Je renvoie vers le site internet, la page Facebook de la DAVEM de l'Aveyron, DAVEM 12, ADAVEM, tout simplement. On retrouve vos coordonnées, les contacts, les lieux et dates des permanents sur l'ensemble du département de l'Aveyron, numéro de téléphone, adresse. J'en oublie peut-être. Non, Instagram, non, peut-être pas la DAVEM encore, pas encore. Ça viendra. Merci beaucoup d'être venu dans nos studios, plaisir. Merci Charlène.
De rien.
Et merci Anne. Merci Anne Duhem, juriste. Charlène Ravary, psychologue à la DAVEM de l'Aveyron. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Voilà, suivre une nouveauté désormais tous les mois sur CFM Rhodes. Et si on décidait d'aller bien.
Bonjour et bienvenue à tous. Je suis Caroline Fualdès, naturopathe et sophrologue à Rhodes. Et si on décidait d'aller bien ? C'est le nom de la chronique que j'ai le plaisir d'animer chaque mois sur CFM Rhodes. C'est parti pour le premier épisode d'une série sur le thème du stress. Et nous allons pratiquer ensemble un petit exercice simple pour gérer le stress. Mais d'abord, le stress, c'est quoi ? Le mot stress est un anglicisme qui signifie tension. Le stress est un état qui se caractérise par une nervosité, un sentiment d'être sous pression, sous tension permanente. Le mot stress date de 1956 et c'est un médecin québécois, Hans Selye, qui est le premier à avoir utilisé le terme stress. Il définit le stress comme un syndrome général d'adaptation. Le stress est une réaction réflexe de notre organisme devant tout événement. Il existe un stress positif, appelé eustress. Ce stress déclenche la bonne montée d'adrénaline pour faire face à une situation. Puis il existe le distress ou stress négatif. C'est celui qui correspond à ce que nous appelons aujourd'hui le stress. Il est présent quand nous sommes confrontés trop souvent ou trop longtemps à des dangers, à des événements perçus comme des dangers. Les répercussions peuvent être à la fois physiques, émotionnelles, mentales et comportementales. Hans Selye a décrit la réaction du stress en trois phases qui se succèdent dans le temps. La phase d'alarme, qui correspond à la confrontation à un événement perçu comme dangereux. C'est le stade du stress aigu. Notre organisme sécrète notamment l'adrénaline pour mobiliser ses ressources. Notre respiration et notre rythme cardiaque s'accélèrent. Le stress se manifeste par des tensions, des douleurs musculaires au niveau du dos, du cou, des épaules. Des sueurs et des tremblements peuvent venir compléter le tableau. Puis vient la phase d'adaptation. Quand le stress devient fréquent, notre organisme doit s'adapter pour tenir la distance. Nous sommes toujours au-dessus du niveau de résistance normal. Notre organisme sécrète en excès l'hormone appelée cortisol. Des douleurs musculaires peuvent se diffuser à l'ensemble du corps. À la longue, si on n'intervient pas pour contrôler ces réactions en chaîne, des troubles du sommeil, de la nervosité apparaissent. Notre sensibilité est accrue. Nous sommes à fleur de peau, la boule au ventre. Et enfin vient la phase d'épuisement. Trop de stress, trop longtemps, nous arrivons au stade du stress chronique. Notre niveau de résistance décline. Notre organisme est débordé, il ne contrôle plus la réaction de stress. C'est la fatigue souvent marquée dès le matin, l'épuisement est colossal. Un impact fort sur la santé psychique et mentale survient, troubles de l'humeur, insomnie, dépression. Avec le temps, ces troubles émotionnels peuvent s'aggraver vers de l'irritabilité, un trop-plein de pensées, des pertes de mémoire, une difficulté décisionnelle et même de la dépression. Les principales conséquences comportementales sont la tendance au zapping, un repli sur soi, un burn-out, de l'agressivité ou encore des addictions. Mais avant d'en arriver là, j'ai une bonne nouvelle. Il existe de nombreuses solutions à mettre facilement en pratique pour calmer le stress. Il est tout à fait possible d'agir en amont pour prévenir ses conséquences néfastes sur notre bien-être et notre santé. Alors d'après vous, quelle est la première technique efficace pour calmer le stress ? Pratique que nous connaissons tous sans en mesurer parfois l'importance. Eh bien oui, vous l'aurez deviné, c'est la respiration. Seulement voilà, nous respirons trop souvent à minima, nous oublions de bien respirer, de respirer profondément et en prenant conscience de notre respiration. Nous allons réaliser ensemble une respiration abdominale contrôlée. Vous êtes prêts ? Alors on y va. Commencez par vous détendre. Puis inspirez profondément par le nez, gonflez le ventre et retenez votre respiration pendant 5 secondes environ. Puis soufflez tout doucement par la bouche en imaginant expulser les tensions. Une deuxième fois, inspirez par le nez en gonflant le ventre. Retenez votre respiration quelques instants. Et soufflez tout doucement par la bouche en expulsant vos contrariétés. Une dernière fois, on inspire par le nez, on gonfle le ventre. On bloque. Et on souffle doucement en évacuant le stress. Voilà, vous pouvez sentir maintenant votre corps se détendre, se relâcher. Sentez votre mental se calmer. Prenez conscience de votre apaisement retrouvé. Utilisez cet exercice simple dans votre quotidien, au bureau, à la maison, chaque fois qu'une information, une situation provoque en vous une réaction de stress. Cet exercice de respiration abdominale contrôlée peut aussi être réalisé de manière systématique, matin et soir. Je vous retrouve dans un mois pour découvrir d'autres astuces simples pour retrouver la sérénité. Des questions ? N'hésitez pas à me contacter via mon site internet www.carolinefualdès.fr. Retrouvez le podcast de la chronique et si on décidait d'aller bien sur cfmradio.fr. Prenez soin de vous, prenez du temps pour vous. Bye bye !
Merci du conseil Carolina. C'est la fin du MAC pour aujourd'hui. Très bonne journée à toutes et à tous sur CFM Rodez évidemment. Et je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour une nouvelle édition.